Viens, tournez avec moi, s'il vous plaît. Tournez avec nous dans le livre de Jacques, la lettre de Jacques à la toute fin, pratiquement, du Nouveau Testament. Ce matin, on termine notre série dans Jacques. Jacques a certains thèmes qui reviennent à travers toute la lettre. Il y a certaines disciplines, certains comportements chrétiens qu'il attend de nous. D'abord, il attend de nous qu'on soit un peuple de prière. C'est super important. À travers toute la lettre de Jacques, ça commence avec cette idée de la prière qui est là. Il nous parle de ce qui sort de notre bouche, qui doit être là pour construire, pour édifier, pour élever les gens autour de nous. Et il nous parle aussi de s'aimer les uns des autres, spécialement de porter attention à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Maintenant, lorsqu'on arrive à la fin de la lettre, Jacques veut que nous soyons affermis. On a intitulé le dernier exposé « Un cœur solide ». Je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de la lettre, Jacques dit « Je veux que vous considériez comme une source de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Et puis ensuite, il dit « Si quelqu'un manque de sagesse pour comprendre en quoi Dieu est en train de bénir même à travers l'épreuve, qu'il prie afin que Dieu lui donne de la sagesse. » À la toute fin de la lettre, Jacques revient sur ces mêmes idées d'être affermi dans notre foi. Jacques veut nous voir devenir solides en Jésus-Christ, en fixant les regards sur le retour de Christ, en s'appliquant à la prière, en s'appliquant à être là les uns pour les autres. Il veut nous voir grandir en maturité, en patience, en persévérance. On va prier. Seigneur Jésus, le début de la course de la vie chrétienne est absolument glorieux. Au début de la vie chrétienne se produit un miracle, une intervention divine qui vient prendre une personne et faire d'elle une personne nouvelle. On appelle ça la nouvelle naissance, Seigneur. Et lorsque j'ai expérimenté la nouvelle naissance, ma vie a été bouleversée, Seigneur. Ça a été des moments glorieux, des moments majestueux où de jour en jour, tu me transformais, Seigneur. Pourtant, Seigneur, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le début de la course, c'est la fin de la course. Je ne regarde pas avec nostalgie au premier jour, Seigneur. Je regarde avec attente au dernier jour. C'est le bout de la course, la fin de la course qui m'intéresse. Alors, Seigneur, je te prie de venir nous parler ce matin. Viens nous parler à travers la lettre de Jacques afin que nos cœurs soient solides et forts, que notre foi ne soit pas chambranlante, mais que notre foi soit belle, forte, costaude, remplie d'espérance en toi, Seigneur. Viens nous parler ce matin. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jacques au chapitre 5. Et on va lire les versets 7 à 20 dans l'édition Louis II. Alors Jacques, chapitre 5, les versets 7 à 20. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Merci Stéphane. Dans la Bible, Dieu nous parle beaucoup de notre cœur, énormément. Mais lorsqu'il parle du cœur, on trouve ça beaucoup dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi. Lorsqu'il est question du cœur dans la Bible, le cœur se situe 12 pouces plus haut que notre cœur physique, ça va? 30 cm plus haut. C'est le siège de la volonté. C'est là que se prennent les décisions. C'est dans le cœur que se passent les haines et les amours, nos passions. C'est là que se passent des guerres intérieures. C'est de là que viennent les bonnes choses qui sortent de ma bouche et les mauvaises qui sortent de ma bouche. Ainsi, la parole va dire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, le cœur est super important dans les Écritures. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui va déterminer si tu construis ta vie ou si tu la détruis. Plus que ça encore, si tu construis les gens autour de toi ou si tu détruis les gens autour de toi. Tout ça vient du cœur. Les Écritures nous disent que le cœur de tous les êtres humains est extrêmement malade. Il dit qu'on a des cas qui demandent une greffe, une transplantation cardiaque. Vous savez ce que c'est? Laissez-moi me servir de cette métaphore-là. La Bible nous dit que le cœur humain est un cœur malade qui a besoin d'une transplantation cardiaque. On a quelques images qui nous parlent de ça. Vous connaissez ça? Bon, c'est un petit peu plus réel que ça, une transplantation cardiaque. C'est un peu plus dur que ça, d'accord? Et les Écritures nous disent que le cœur humain est profondément malade. Que ce cœur, de notre cœur, tout ce qui peut sortir, même s'il y a un rappel des choses de Dieu, des choses belles de Dieu, ce qui sort de notre cœur, ce sont des choses mauvaises. On essaie de construire, on essaie de faire le bien, mais on détruit en même temps. On a besoin d'une greffe, une transplantation cardiaque. On lit dans les Saintes Écritures, dans Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Il est en train de parler de ce cœur spirituel dont je vous parle. Et il nous dit « On a besoin de cette greffe-là, cette transplantation cardiaque. » Et cette transplantation cardiaque-là a été rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Le prophète annonçait un jour où viendrait le Messie, le Sauveur, celui dont on va célébrer la naissance dans une semaine et demie. Et Jésus est venu, dans le fond, avec une mission première, une mission la plus importante de toutes, venir mourir sur cette croix, ressusciter le troisième jour, et par ce sacrifice volontaire et libre de sa part, il venait pour payer pour les péchés des hommes. Et à tous ceux, nous disent les Saintes Écritures, qui placent leur foi dans son sacrifice, se reconnaissant eux-mêmes pécheurs, bien Dieu vient accorder cette grâce, ce miracle, cette bénédiction, Dieu vient opérer cette transplantation cardiaque. Au moment où je crois en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, pour mes propres péchés personnels, les Écritures nous disent que je passe par une nouvelle naissance spirituelle. Un cœur nouveau m'est donné, l'Esprit-Saint vient vivre en moi. C'est surnaturel. Tu y crois totalement quand tu l'as expérimenté. Tu le crois en espérance jusqu'à ce que ça se produise. Et donc, mon espérance pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est que vous avez déjà eu votre greffe. Que vous êtes tous des greffés. Et que vous avez déjà reçu ce cœur nouveau-là qu'il bat déjà en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est ma prière pour vous en fin d'année 2014, en 2015, c'est qu'il vous trouve un cœur. Puis qu'il vous donne ce cœur nouveau-là. Et la bénédiction avec Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un accident pour pouvoir avoir une greffe. La greffe est possible maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu t'humilies devant Dieu et tu te reconnais pécheur, tu reconnais que ton cœur, cet endroit spirituel où se trouve le siège de tes décisions, de ta volonté, est malade et que tu as besoin d'une intervention divine, aujourd'hui, la transplantation cardiaque est possible. C'est ma prière pour toi. C'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Commencer une vie nouvelle avec un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Je sais que pour la grande majorité d'entre vous, c'est déjà fait. Vous avez reçu ce cœur-là. Et ce que Jacques est en train de nous dire ici, il dit ça, c'est le début. C'est le commencement. Vous avez reçu votre nouveau cœur. Qu'est-ce qui se passe après qu'on a subi une transplantation cardiaque? Et on a quelqu'un ici qui a reçu un foie. C'est toute une période de réhabilitation. Et donc, les gens, après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des entraînements progressivement. Ils vont s'adapter à ce nouveau cœur-là. Il faut fortifier ce cœur-là. Et c'est de ça dont Jacques nous parle ce matin. C'est un des thèmes, sinon le thème principal de toute la lettre de Jacques, d'accord? Que nos cœurs deviennent des cœurs solides, fermes, capables de supporter les épreuves de la vie, toujours en gardant les yeux fixés sur Dieu. Et donc, ce que Jacques est en train de nous dire ce matin, toi qui as reçu ce cœur nouveau-là, toi qui as un cœur nouveau qui te permet de comprendre, d'entendre les choses de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, maintenant ce cœur-là doit être affermi. Il doit être solidifié pour devenir costaud, fort, prêt à entrer dans l'action pour faire face aux épreuves de la vie, aux bénédictions, aux joies, aux peines. Être là pour être capable d'aimer, de supporter, d'encourager. Alors ce matin, on va voir ensemble. La greffe a été faite, la transplantation a été faite. On a reçu ce cœur nouveau-là. Je l'espère pour chacun d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est ma prière pour vous. Il y a un cœur disponible pour vous. On en a trouvé un. On peut vous donner un cœur nouveau. Ça demande simplement un appel. Un appel de votre part. Vous tournez vers Jésus-Christ et la greffe va être faite. À chacun d'entre nous qui avons déjà ce cœur nouveau-là, on va voir ensemble ce matin que Dieu veut rendre ce cœur-là solide, en santé, très, très fort. À travers trois choses, très, très brièvement, il y a beaucoup de matière dans le livre de Jacques, puis une des choses qui est intéressante, c'est qu'on va y revenir un peu pendant le mois de prière au mois de janvier. Un cœur qui bat au rythme de l'éternité. Un cœur qui est gardé en santé dans la prière, un cœur qui aime. Et c'est en travaillant, en portant attention sur ces trois aspects-là que Jacques veut que nos cœurs soient affermis. Ça prend notre part dans ça. On l'a reçu ce cœur-là, Jacques nous dit, OK, maintenant c'est à toi. Affermissez vos cœurs, rendez-les solides ces cœurs-là. Premièrement, en ayant un cœur qui bat au rythme de l'éternité. Regardez avec moi les versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez-vous, on a intitulé la série « La tête dans les nuages, les deux pieds groundés ». C'est comme ça qu'on l'a intitulé. Parce qu'un chrétien est censé de vivre dans la réalité du quotidien, être capable de vivre sa foi au quotidien à travers des épreuves bien réelles, avec des opportunités tout à fait justes d'aimer, de prendre soin des gens démunis, des gens dans le besoin. Ma vie chrétienne, c'est pas une affaire théorique, c'est quelque chose qui se vit dans la réalité ici sur terre. Mais en même temps, ça se vit à tous les jours, avec la tête dans les nuages, avec les yeux qui regardent au ciel, tous les jours, à chaque instant. Et c'est de ça dont il est en train de me parler. Ce cœur-là qui m'a été donné doit battre au rythme de l'éternité. Le cœur qu'on m'a donné, c'est par une intervention divine qu'il m'a été donné. Il ne fonctionne pas de la même manière qu'un simple cœur terrestre qui garde les yeux toujours fixés sur la vie de cette terre. Que tu aies 5 ans, que tu aies 8 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 45 ans, que tu aies 65 ans, que tu aies 85 ans, que tu aies 90 ans, si tu as reçu cette greffe de cœur-là, ton cœur ne bat pas au même rythme que tous les cœurs sur la terre qui gardent les yeux fixés uniquement sur cette vie. Parce qu'il y a en toi l'Esprit Saint. Tu as 15 ans, tu es à l'école, c'est vrai. Tu ne vis pas à l'école de la même manière que tes amis, les gens à l'école, les collègues de classe, tu es au cégep, tu es au travail, quel que soit ton âge, ton cœur ne bat pas au même rythme. Tu as reçu l'Esprit Saint. Et ce cœur-là bat à un autre rythme parce que ce cœur-là attend le retour de Jésus-Christ. Ce cœur-là attend le retour de Christ. Ce cœur-là sait qu'il va continuer à battre jusque dans l'éternité. Cette vie nouvelle-là est en moi et elle va me transporter jusque dans l'éternité. Et ce que ça fait, c'est vraiment paradoxal. Dans un certain sens, ça me tient sur le qui-vive. Moi, je ne vis pas, depuis que j'ai ce cœur-là, je ne vis pas pour maintenant, dans un sens. Je ne vis pas pour maintenant, je vis pour l'éternité. La perspective des épreuves de la vie, comme nous dit Jean, ici, change complètement. Je gagne en patience parce que pour moi, ce que je fais maintenant, ça a une portée éternelle. Le temps est court et je suis en train de regarder à l'éternité, ça me donne une patience. Je sais qu'il y a des épreuves qu'on vit maintenant, mais ça peut être tout de suite que Jésus revient, ça peut être demain, il peut venir me chercher, je m'en vais le rencontrer. Ma vie est éternelle, la proportion des choses change complètement. Puis en même temps, parce que je vis pour l'éternité, à quelque part, ça peut se passer n'importe quand. Donc, c'est paradoxal, d'accord? On va entendre des gens qui ne croient pas nécessairement à Dieu, qui vont dire, vis pour l'instant présent. Ben oui. Oui, parce que l'instant présent, c'est peut-être le dernier instant avant que Jésus revienne. Fait que oui, je veux vivre pour l'instant présent. Mais je vis pour l'instant présent en regardant dans l'éternité. Et donc, il y a cette espèce de paradoxe-là en moi qui fait que mon cœur est actif, il est disponible, il est sur le qui-vive. Mes yeux regardent l'éternité, je suis disponible pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va avoir une portée éternelle? Les épreuves d'aujourd'hui, je veux les vivre en regardant dans l'éternité. Puis en même temps, l'éternité peut commencer maintenant. Mais je ne le vis pas de la même manière que la personne qui a un cœur qui ne bat pas au rythme de l'éternité, parce que cette personne-là se dit, après maintenant, il n'y a probablement rien. Fait que je vis pour maintenant sans conséquence pour après. Tout ce qui compte, c'est maintenant. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas. C'est pas le cas de celui qui a reçu ce cœur-là, qui bat pour l'éternité, au rythme de l'éternité. Je sais que Jésus revient. J'ai cette espérance en moi parce que cet écho-là en moi qui me dit constamment, j'ai un Père céleste qui me prépare une place au ciel. Et Jésus va revenir me chercher. Et le temps est court, c'est ce qui fait que Jacques dit, c'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt, ça fait 2000 ans, c'est bientôt. C'est pas long ça pour Dieu, 2000 ans, vous comprenez? Il vit à l'extérieur du temps, Dieu a conçu le temps pour que notre vie ici prenne un certain sens. Dieu est hors du temps, demain, après, hier, il y a 1000 ans, 2000 ans, ça se passe dans le moment présent pour Dieu. Dieu est hors du temps. Et la vérité, lorsque je considère la grande, grande multitude de gens qui sont encore en attente d'une greffe, le temps est court pour tous ces gens que j'aime, tous ces gens que je voudrais voir recevoir cette greffe cardiaque-là. Le temps est court. Chaque jour qui passe, je me dis, c'est peut-être son dernier. Seigneur, attends encore un peu, tarde encore un peu. Encore une personne de plus qui va recevoir une greffe, Seigneur. Une autre de plus avec nous. Fait que ça me va. Ça me va que le temps soit court et qu'il soit long en même temps. Ça me va. Pour une personne de plus, ça me va très bien. Celui qui a reçu une greffe cardiaque, une greffe céleste, a un cœur qui bat au rythme de l'éternité. On est sur le qui-vive à tous les jours. Ce que je fais lorsque je m'en vais au travail, ça a une portée pour aujourd'hui, pour ma famille, pour payer mes vacances l'été prochain. Mais ça a une portée éternelle aussi. Parce que mon cœur bat à ce rythme-là. Lorsque je suis engagé dans un conflit au travail, lorsque je suis engagé dans une situation désagréable, détestable, c'est réel, c'est maintenant, c'est là. Mais en même temps, ça a une conséquence éternelle. Comment est-ce que je réagis avec ce cœur-là qui bat avec un regard sur le retour de Christ? Et Jacques nous le rappelle assez directement lorsqu'il nous rappelle que ce sauveur-là qui va revenir est aussi juge. Il nous dit, ce juge-là est à la porte. Voyez-vous, les Écritures sont très claires. Lorsque tu as placé ta foi en Jésus-Christ, ton éternité est assurée. Tes péchés sont pardonnés. Tu entres dans la famille de Dieu. Et comme la vie de Matthieu et Christine en témoigne, c'est Dieu qui s'est engagé, il va le faire. Excuse-moi, Matthieu. Même quand on est poche, il va le faire. Puis lui, il est patient, puis il persévère, puis on est poupoum, poupoum. Ça se remet à battre comme il faut, cette affaire-là, puis fouf. Enfin, ça fait du bien. Parce qu'on le sait. On le sait qu'on est de ce monde-là. On a reçu son esprit. Mais en même temps, les Écritures nous disent que malgré cela, chacun d'entre nous, on va paraître devant Dieu. Pour les œuvres qu'on a faites. À savoir, est-ce qu'on a construit? Est-ce qu'on a construit à la mesure de ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on a construit à la mesure de la bénédiction qu'on a reçue? Dieu sait que non. On s'entend? On est tous pécheurs. Dieu sait que non. Dieu sait qu'on manque trop souvent. Notre cœur défaille trop souvent. C'est pour ça qu'il faut l'affermir. Mais en même temps, Dieu t'a donné des dons, t'a donné des talents, il t'a donné des opportunités. Il a fait de toi un missionnaire là où tu es, dans ta famille, dans ton milieu de travail, avec tes collègues, avec ton voisinage. Dieu t'a placé là pour faire une différence éternelle. Et le juge est à la porte. Parce qu'on va tous rendre compte pour ce qu'on a fait avec ce que Dieu nous a donné. Celui qui a reçu cette greffe a un cœur qui bat au rythme de l'éternité. Il est toujours sur le qui-vive, prêt au retour de Christ, le cœur en alerte, puis en même temps est patient, parce que le temps ne compte plus. Dans la dernière année, on a vu plusieurs personnes nous quitter. Dans les dernières années, je pense à Mme Martin, mais dimanche dernier, il y a eu un service ici pour un frère, Pierre Fournier, puis lorsque je parlais avec des gens après le service, c'était pas un frère de l'Assemblée ici, mais c'est... On leur a rendu service en ouvrant nos portes, puis ça a été un moment super édifiant. Super édifiant parce qu'à travers toute sa maladie, la maladie de Lou Gehrig, où il était en train de... C'était vraiment une maladie dégénérative. Chaque fois que tu allais parler à Pierre, tu quittais la conversation, puis tu étais édifié. Tu t'en allais là pour l'encourager, pour le fortifier, puis tu quittais la conversation, puis c'était très clair que cet homme-là avait les yeux fixés sur l'éternité. Il n'avait plus de temps à perdre à s'enfarger avec le péché. Il n'avait plus de temps à perdre pour maugréer à cause de sa maladie. Son sauveur lui avait annoncé que la date approchait. Et j'ai vu des frères et des sœurs en grand nombre être tellement édifiants parce qu'à travers leur souffrance, ils ont cette patience de celui qui a les yeux fixés sur l'éternité. Et ça, tu peux le vivre maintenant. Même si tu as 12 ans, puis tu dis, j'ai toute la vie devant moi. Tu vas voir, j'ase des fois avec nos enfants qui grandissent, nos grands ados, puis déjà, ils commencent à dire, hey, le temps passe vite. Attends, man, tu vas voir. Tu vas passer en quatrième, puis en cinquième vitesse. Ça va vite. Ça va très vite, surtout quand tu ne sais pas quand tu pars. Surtout quand tu ne sais pas quand tu pars. Ce cœur-là, pour devenir solide, pour être solidifié, pour être affermi, Jacques nous dit que la prière est fondamentale. Au mois de janvier, on va consacrer 3 dimanches matin, comme on le fait depuis quelques années maintenant, à la prière. Je veux vous encourager à venir. On est 80-90 pour la prière. Ce matin, on est 300. 300 personnes à la prière au mois de janvier, pas une personne de moins. Parce que vos cœurs doivent être affermis. Vos cœurs doivent être affermis. Et Jacques nous dit que la prière est le remède par excellence pour affermir nos cœurs. J'ai commencé à en parler la semaine dernière. On a commencé à parler de ça. Vous savez, il y a des études qui sont sorties dans les dernières années. Vous avez sûrement vu ça dans l'actualité, tout ça. Des études, je l'ai déjà cité, qui disent que les gens qui s'appliquent à la prière, tout ça, c'est bon pour leur santé en général. C'est bon pour leur santé en général parce que c'est des gens, ils vont faire des comparables avec ceux qui pratiquent le yoga, ceux qui font de la méditation, tout ça. Fait qu'on pourrait dire, que, tu sais, s'adonner régulièrement à la prière, c'est bon pour ton cœur physique, ça t'apaise, ça te calme. Certains vont dire ça te recentre, tout ça. C'est pas de ça dont je vous parle ce matin. Oui, ça a une incidence sur ma santé globale, c'est vrai. C'est vrai qu'être reposé en Dieu, ça élimine énormément de stress, mais c'est pas de ça dont je vous parle ce matin. Jacques nous dit que ce cœur spirituel-là qu'on a besoin de prière, a besoin d'aller rencontrer Dieu dans la prière. Parce qu'il se passe toutes sortes de choses dans ce cœur-là. À tous les jours, il se passe un million d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a commencé la série dans Jacques. Je vous ai illustré à travers une seule journée tout ce qui se passe comme activité dans mon cœur, toutes sortes d'épreuves, de troubles. Ils sont innombrables. Avant la fin de la journée, dans votre cœur, il va y avoir eu de la colère, de l'irritation, des craintes, des peurs, de la joie, des conflits, toutes sortes de choses d'ici la fin de la journée. Bien, Jacques nous dit que ce cœur-là a besoin de prière. Et vous savez, un des problèmes, une des difficultés qu'on a avec la prière, c'est qu'on pense que la prière, c'est pour les SS. On pense que la prière, c'est pour les super spirituels. Il y a des super spirituels dans l'Église, ils sont nés avec ça. Tu sais, c'est des méditatifs, eux autres, ils sont comme pas trop dans la réalité. Puis la vérité, là, c'est qu'ils sont juste un petit peu moins cabochons que vous autres, puis ils ont compris plus vite que vous que ça prend la prière. C'est juste ça, la vérité. C'est vrai! On va tous arriver là pareil. OK, c'est pour les super spirituels. Mais oui, si ça va bien la fin de ta vie chrétienne, tu vas faire partie des super spirituels. Parce qu'à un moment donné, dans l'épreuve, dans les difficultés, tu vas réaliser que tu as besoin d'aller rencontrer Dieu. Tu sais, quand tu vas fini de croire que c'est toi qui peux tout régler tes problèmes, quand de plus en plus rapidement, tu vas arrêter de dire « Merci Seigneur, je t'appelle quand j'ai besoin de toi, je vais aller m'occuper de cette situation-là, puis le Seigneur te laisse aller avec un petit peu de lousse hein, ouais, tu laisses un choker. Tu veux de la corde, tu vas te laisser de la corde. Je t'ai exhorté, tu veux pas écouter, vas-y, pack! Oui Seigneur, je suis pas capable, t'as raison. » Alors pour de vrai, il y a des gens qui sont des modèles de prière pour nous. Mais ce que Jacques nous dit ici, regardez bien ce que Jacques fait. C'est super important. Vers la fin, complètement, il parle d'Élie. C'est énorme ce que Jacques fait ici, OK? Jacques dit, OK, vous voulez un modèle de prière incroyable? Je vais vous parler du gars qui faisait venir la pluie. Puis du gars qui faisait arrêter la pluie. Bon, c'est Dieu, hein, on s'entend, c'est pas Élie. Élie était un homme, au verset 17, de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bon, Élie avait un mandat particulier. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous voulez que ce soit la Floride ici tout de suite, vous pouvez prier pour qu'il n'y ait pas de neige pour les 3 prochains mois. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il avait un mandat particulier. Mais Jacques est en train de nous dire, si vous vous faites accroire que ce gars-là, c'était un SS. Il l'avait dans le sang. Il y avait quelque chose de spécial qui faisait que lui, c'était comme un homme de prière. Jacques est juste en train de nous dire, il était juste moins cabochon que vous autres, le gars. Parce qu'il était fait de la même nature que vous. Donc, c'est un mensonge que vous croyez quand vous vous dites, il y a des super spirituels. Eux autres, c'est comme naturel pour eux de prier. Si c'est naturel pour eux de prier, la Bible est mensongère. Parce que ce qui est naturel pour l'homme, c'est quoi? Péché. Moi, c'est ça que je lis dans les Écritures. Ah non, mais lui, il a le don spirituel de la prière. OK. Où tu as trouvé ça dans la Bible, le don spirituel de la prière? Don de compassion, ça me va. Le don spirituel de la prière, il vient avec le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur. Tu n'y en donnes pas, ton cœur est malade. Il redevient malade. Et donc, ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'il n'y en a pas de super cœur, seulement des cœurs qui prient plus. Et c'est là qu'on va arriver, chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on l'a intégré dans la vision. Dans notre vision, on dit qu'on va être une église qui écoute Dieu, qui cherche toujours plus la plénitude de l'Esprit, une église qui marche tout près de Dieu. C'est de ça dont on parle. Aller dans les Écritures, méditer la parole, puis ensuite de ça, aller dans la prière, puis prier la parole. C'est de ça dont on parle. Je lis les Écritures en priant, puis je prie avec les Écritures, et Dieu me parle, Dieu me dévoile mon cœur dans cet endroit de silence-là. Je vois ce qui se passe en moi, je vois les peurs, je vois les doutes. Et Jacques dit, t'es malade, t'es triste, va dans la prière. Ça va bien, t'es dans la joie, chante tes prières en louange. Prie, prie, prie tout le temps. Que ce soit en silence, en secret, dans ton coin, que ce soit en confessant les uns les autres, puis en priant pour les uns pour les autres, que ce soit par nos louanges le dimanche matin, lorsqu'on est en train de chanter des cantiques, on est toujours en train de prier. Et c'est ça que Jacques est en train de dire ici. Ton cœur a besoin de prier constamment. Ton cœur a besoin que Dieu soit en dialogue avec lui constamment à travers ta journée, lorsque les épreuves, les opportunités, les occasions surviennent, lorsque les craintes reviennent à l'esprit, lorsque les préoccupations reviennent, lorsque les joies viennent, j'entre en dialogue constant avec Dieu. Je me lève le matin, je prends un temps à l'écart, je m'en vais dans les Écritures, puis je vais simplement dans la prière. Puis dans la prière, j'entends toutes les craintes, les doutes, les peurs qui viennent dans ma tête, puis j'apporte ça au Seigneur à la lumière de ce que j'ai lu dans sa parole. Prie, 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 c'est ça que ton cœur a besoin pour être en santé. Pour être en santé, nos cœurs ont besoin qu'on prie les uns pour les autres. C'est ça que Jacques nous dit ici. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ton cœur a besoin que tu vives une vie de prière très intense. Mais un chrétien qui s'isole, c'est un chrétien qui est menacé d'un arrêt cardiaque. C'est ça qui se passe. Parce que ton cœur à toi a besoin de cette prière avec les frères et sœurs. Il a besoin de ça, il a besoin de cet endroit où on va venir prier pour toi. La plus belle chose qu'on pouvait faire ce matin pour Mathieu et Christine, c'est de prier ensemble pour eux. On va leur écrire des beaux mots dans la carte. Ils vont les voir, mais ce qui va avoir le plus d'impact, c'est qu'on soit encore en train de prier pour eux lorsqu'ils vont être en train de servir là-bas au camp des boulots. Et on a besoin de prier les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on se réunit dans les foyers pendant la semaine. Si votre vie chrétienne en église se résume à venir ici le dimanche, inviter des chrétiens de temps en temps à venir boire une bonne bouteille de vin chez vous avec un bon gigot d'agneau, mais que vous ne vivez pas cet endroit où vous êtes avec des frères et sœurs, vous êtes en train de prier, il vous manque un élément essentiel à votre vie spirituelle, à votre santé spirituelle. Alors j'ai besoin de trouver toutes les avenues possibles à travers les réunions dans les foyers sur semaine, lorsqu'on se réunit, lorsque deux chrétiens se rencontrent, on ne se quitte pas sans prier. Hey, tu veux-tu, on va prier là-dessus maintenant? Tout de suite, là. Tout de suite. On va rendre grâce à Dieu juste pour ce qu'il est en train de faire. On veut se rappeler que c'est lui qui est en train de le faire. Priez constamment les uns pour les autres. Et peut-être que vous avez besoin, nous dit Jacques, que les anciens prient pour vous. Peut-être que vous avez besoin aussi que les anciens prient pour vous parce que vous êtes malade. Et je ne vais pas développer cet aspect-là, le verset 14-15 maintenant, parce que savez-vous quoi? Au mois de janvier, on va avoir trois dimanches matins avec la prière de 9 à 10. Les anciens vont être disponibles pour prier pour vous si vous êtes malade. D'accord? On va s'organiser un peu, il va y avoir la prière ici, mais quelques-uns des frères du conseil vont être disponibles pour prier pour vous si vous êtes malade. Et donc, j'adresserai ça un peu plus à l'ouverture de ce mois-là de prière, ces trois semaines-là de prière. Mais peut-être que vous avez besoin que les anciens prient pour vous. Parce que vous êtes aux prises avec une maladie, avec la souffrance, ou vous l'avez partagé à des gens autour de vous, mais vous avez besoin de ce temps-là où les pasteurs de l'Église vont se réunir avec vous. C'est un énorme privilège pour nous de faire ça, de prier avec vous. Chaque fois qu'on le fait, nous, on a été profondément bénis et les gens avec qui on le fait aussi. Alors, on va faire ça au mois de janvier, d'accord? Un cœur en santé, c'est un cœur qui bat au rythme de l'éternité. C'est un cœur qui s'affermit, garde les yeux fixés sur le retour de Christ, pas seulement sur cette vie. Un cœur en santé, c'est un cœur qui est alimenté constamment par la prière. Constamment par la prière, parce que c'est là que je vais examiner mon cœur devant Dieu, c'est là que je vais parler avec mon Dieu, c'est là que je vais lui confier mes soucis, mes fardeaux, c'est là que ma foi se fortifie parce que je médite sur ce que la parole de Dieu m'a dit, puis j'examine mes défis personnels à la lumière de ça devant Dieu, avec Dieu. Un cœur qui devient de plus en plus fort Et ça, c'est super important dans la lettre de Jacques. C'est un cœur qui ne reste pas dans la théorie. C'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui passe à l'action et qui aime. Si votre cœur n'est pas exercé à aimer, votre cœur va s'atrophier. Vous allez aimer de moins en moins. Jacques nous dit que ce cœur nouveau qui nous a été donné pour aimer. C'est à ça qu'on s'est aimé Dieu et aimer mon prochain. Jacques ne pouvait pas concevoir que ça existe des gens qui se disent chrétiens et qui ne mettent pas ça en pratique. Et donc, ce cœur-là m'a été donné pour aimer les gens autour de moi, pour les aimer patiemment malgré. Regardez bien le contexte, très rapidement, regardez bien le contexte. Au verset 9, tout de suite avant, il a parlé d'être patient dans l'épreuve, hein? Puis des fois, on voit pas comme le fil conducteur entre un verset puis un autre de Jacques, mais il est là, le fil conducteur. Parce que souvent, l'épreuve, ben mon épreuve, souvent, c'est toi. C'est souvent toi, mon épreuve. Souvent. Puis, j'aime pas comment tu te comportes, puis tu me tombes ses nerfs, puis j'aimerais bien t'expliquer tout ce qui doit changer dans ta vie, mais je suis le seul qui a le privilège d'avoir un micro le dimanche matin. Fait que... Jacques dit au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Être patient les uns envers les autres, malgré que j'aurais sujet de me plaindre selon moi. » C'est ça que Jacques est en train de dire. Hein? Ah, tu penses que tu vois clair? Je veux juste te rassurer, il y a quelqu'un qui voit 100 fois plus clair que toi. Peut-être qu'il ne voit pas les choses de la même manière que toi, c'est Dieu. Fait qu'inquiète-toi pas, il n'en manque pas une. Il voit toutes. Il voit quand tu as raison, il voit quand tu as tort. Il voit tout ça. Fait peut-être que tu es mieux de ne pas te plaindre. Parce que tu pourrais te tromper dans ta complainte. T'sais. Puis lui voit tout ça. Aimer patiemment malgré. Malgré que j'aurai l'occasion, j'aurai sujet de me plaindre de mon frère, de ma soeur, des gens autour de moi. Aimer en accueillant la faiblesse. Regardez, je l'ai lu tout à l'heure, le passage au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Non seulement dans l'Église de Christ, on n'est pas censé être en train de parler les uns contre les autres et se plaindre des autres, même devant Dieu. Non seulement je ne me plaindrai pas de toi, mais par mon attitude, tu vas voir que j'ai de l'ouverture à ce que tu viennes te confier à moi. C'est ça, hein? Confessez vos péchés les uns aux autres. Je vais être suffisamment accueillant. Vous savez, lorsqu'on parle d'aimer notre prochain, oui, ça veut dire remplir des paniers d'épicerie puis donner de la nourriture. Oui, ça veut dire ça. Amen. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire être accueillant. C'est ça qu'on dit dans la vision, hein? Être accueillant. Être accueillant, c'est être une personne auprès de qui tu as envie d'aller te confier quand ta vie chrétienne est tellement poche. Tellement poche. Mais tu sais que si tu peux aller voir cette personne-là, si elle a 5 minutes pour toi, tu vas avoir le droit d'ouvrir ton cœur parce que cette personne-là sait aimer. Son cœur a appris à aimer les pécheurs. Son cœur est humble. Elle est proche de Dieu. Elle s'humilie elle-même régulièrement, sentant sa misère. Elle peut accueillir n'importe quel misérable, vermine, pécheresse. Et lorsque je me sens comme ça, misérable, je sais que je peux aller voir tel frère, telle sœur. Je sais que je vais être accueilli, je vais être aimé, je vais pouvoir aller confesser mon péché. J'ai envoyé un courriel à un frère cette semaine. J'ai confessé quelque chose. Il m'a répondu, puis à la fin de son courriel, il écrit, « Je t'aime. Je t'aime. » J'ai oublié tout le reste du courriel, mais ça, je m'en rappelle. La prochaine fois que je vais avoir quelque chose à confesser, je sais à qui écrire. Un cœur qui est affermi en Jésus-Christ, c'est un cœur qui apprend à aimer en accueillant les faiblesses des autres, au lieu de se plaindre des faiblesses des autres, au lieu de juger les autres. Et non seulement ce cœur-là ne va pas médire, mais va s'approcher en accueillant les autres, va même poursuivre celui qui s'est égaré dans le péché. Parce que Jacques termine sa lettre en nous parlant de ces chrétiens, parce qu'il parle d'un frère, il parle de gens qui ont reçu cette greffe, qui ont reçu ce cœur spirituel et qui pourtant sont en arrêt cardiaque. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Un cœur qui est en santé, c'est un cœur qui non seulement ne parle pas comme contre les autres, non seulement accueille, mais poursuit celui qui s'est égaré et qui est tombé en arrêt cardiaque, puis reste à ses côtés, persévère et marche avec lui pendant des années s'il faut, dans la prière, dans l'écoute, dans le support, jusqu'à ce qu'il voit cette vie-là qui revient en lui. Il se réjouit, puis il bénit Dieu. Il bénit Dieu de voir ce que Dieu est en train de faire. On va prendre un temps de louange. On va parler à ce Dieu merveilleux qui nous a aimés, qui nous a donné ce cœur nouveau-là. On va l'adorer, on va le célébrer. Et si tu n'as pas déjà reçu cette greffe cardiaque-là, il y a un cœur disponible pour toi, ils en ont trouvé un. Juste pour toi. La greffe peut se faire aujourd'hui, maintenant, cet après-midi. Accroche un frère, accroche un chrétien, viens nous voir. On est des spécialistes, mais ce n'est pas nous qui faisons l'opération, je te rassure. C'est l'Esprit-Saint qui le fait. Nous, on fait juste préparer le terrain. C'est tout ce qu'on fait. C'est lui qui le fait. Et à vous, frères et sœurs, qui avez reçu ce cœur-là, Jacques veut nous voir avoir des cœurs de plus en plus forts. Des cœurs qui apprennent à se réjouir à travers l'épreuve. Des cœurs qui sont capables non seulement de connaître des choses sur Dieu, mais de les mettre en application, de les vivre au quotidien. Des cœurs qui apprennent que la seule manière d'avoir un cœur nouveau en santé, c'est de le baigner constamment dans la prière. Renoncez à ce mensonge-là que vous n'êtes pas une personne de prière. Votre cœur vit à cause de votre première prière, parce que Christ est venu déposer cette vie nouvelle-là en vous. Et votre cœur a besoin de prière. Il languit après ça. Accordez-la à lui, vous allez voir. Il va répondre à ça. Vous allez le sentir devenir de plus en plus fort, de plus en plus beau, de plus en plus près de Dieu, de plus en plus rempli du Saint-Esprit. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on s'apprête à fêter la fête de ta naissance, de ta venue, Jésus-Christ. Seigneur, ta venue a rendu toute chose possible. Ta venue, ta mort sur la croix, ta résurrection a rendu possible ma résurrection, Seigneur. A rendu possible que je reçoive ce cœur nouveau, Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons voir nos cœurs s'affermir en toi, grandir en toi, Seigneur. Viens, conduis-nous maintenant par ton esprit dans la louange, Seigneur. On veut te célébrer pour ta grâce. On veut apprendre à s'approcher de toi quotidiennement, Seigneur. Fais de nous une maison de prière. Fais de nous un peuple qui aime avec sa langue, en faisant du bien par ses paroles, en retenant énormément de paroles, et qui passe à l'action en prenant soin, en aimant, en accueillant, en poursuivant celui qui s'est égaré, pour lui dire que tu l'aimes encore, que tu veux faire renaître en lui cette vie. Sois béni, Seigneur. Amen.